qui assure efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée, Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le regard s'arrête parfois sur des jambes marquées de marbrure bleue, des veines saillantes et tortueuses qui parcourent les chevilles ou le mollet. Ces varices sont le signe d'une insuffisance veineuse chronique. Et si on ne peut pas les guérir, eh bien on peut en soulager les symptômes et prévenir leur formation. Adopter certaines règles d'hygiène de vie, porter par exemple des bas de contention. Certains optent même pour des interventions, laser, chaleur, ablation, donc pour les éliminer. Les varices qui touchent en majorité les femmes, 2 à 3 fois plus que les hommes, elles ne sont pas seulement inesthétiques, elles doivent aussi être surveillées, car si elles sont bénignes, leurs complications en revanche peuvent être graves, thromboses, phlébites. C'est pourquoi, nous le verrons au cours de l'émission, la prise en charge médicale est parfois nécessaire. Avec nous en studio, le professeur Emmanuel Messas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité fonctionnelle des maladies vasculaires à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons au Cameroun le docteur Marcus Fokou, chirurgien vasculaire et phlébologue à l'hôpital général de Yaoundé. En fin d'émission, on retrouvera la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo. Et puis bien sûr, le standard, le numéro de l'émission pour poser vos questions et aussi pour témoigner, le numéro de priorité santé, toujours le 33 84 22 75 75. Alors les varices, tout le monde sait à quoi ça ressemble, professeur Emmanuel Messas, mais pas forcément à quoi c'est dû, comment les définir ces varices, où sont-elles localisées? D'abord, quels sont les symptômes, comment distinguer des veines de varices, tout simplement?
C'est une bonne question. Alors pour rappeler, je suis cardiologue, spécialiste maladie vasculaire, et il faut savoir que le réseau veineux, il est divisé en deux parties, un réseau veineux profond et un réseau veineux superficiel. Le réseau veineux profond, il est un peu intramusculaire, il est dans les muscles. Le réseau veineux superficiel, sous-cutané, ce sont les saphènes, les veines saphènes. Il y a deux veines saphènes, une saphène interne et une saphène externe. La saphène interne va de la cheville à la base de la cuisse, et la saphène externe va jusqu'au genou. Et c'est ces saphènes, ces veines, qui vont peut-être être responsables des fameuses varices, qui sont dues tout simplement, et on rappelle un peu la fonction des veines, c'est le retour veineux, qu'on appelle le retour veineux, c'est le sang qui doit aller du pied vers le cœur. Donc il doit aller contre la gravité. Et pour cela, il est aidé par quoi? Par la compression musculaire, la chasse musculaire, et les valvules, des valvules anti-reflux, quelque part, dans les veines, qui vont aider le sang à remonter vers le cœur. Et c'est là le problème. Lorsqu'on a un déficit de ces valvules, de ces veines, eh bien le sang a tendance à stagner, la veine à se dilater et à former, quand c'est au niveau réseau veineux superficiel, des varices.
Avec donc ces veines qui ressemblent à des fleuves, comme sur une carte, est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent de leurs varices?
Absolument. Alors, il y a des fois, c'est asymptomatique, et des fois, c'est douloureux. Alors, il y a tous les symptômes possibles, des douleurs, il y a des douleurs, des fatigabilités à la posture debout, on peut avoir même des grattages, on peut avoir de l'eczéma. Donc, tout ceci peut être très symptomatique et très invalidant, même au niveau professionnel, chez des patients qui restent longtemps debout.
Alors, on parle de maladies veineuses chroniques, ça veut dire simplement qu'on ne peut pas les soigner, mais les traiter, professeur Emmanuel Messas?
Alors, c'est une bonne remarque. Effectivement, c'est chronique, et donc c'est sur le long terme, et d'où le corollaire, le traitement va être aussi long terme. Et comme vous l'avez dit dans l'introduction, parfois, effectivement, ça nécessite une prise en charge globale, et pas simplement ponctuelle, à cause de la varice.
Par exemple, les personnes qui décident qu'il y a une intervention à venir, on en parlera tout à l'heure, c'est de leur propre ressort ou c'est le médecin qui le décide?
C'est alors, bien entendu, avec l'accord du patient, mais je pense que c'est au médecin à décider en fonction des critères cliniques de jugement. Il y a des scores, le score de Villalta et autres, et en fonction des Doppler, en fonction de l'évaluation par l'échographie et par le Doppler, qui vont faire une cartographie veineuse, tant du réseau veineux profond que superficiel, et décider, est-ce qu'il y a nécessité d'un traitement interventionnel? 2, est-ce qu'on va conserver ces veines ou est-ce qu'on va, entre guillemets, les détruire?
Professeur Emmanuel Messas, c'est important de le dire, ce n'est pas uniquement une question d'esthétique, c'est une question de santé.
Ah oui, c'est une question de santé, et c'est une, entre guillemets, maladie, qui n'est pas grave, mais c'est une maladie qu'il faut traiter. Et comme vous l'avez dit, c'est une maladie chronique, et donc ça demande des règles hygiéno-diététiques au début, voire quelques médicaments, voire une intervention, si ceci est très invalidant.
Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs, une fois que la varice est là, bon, on le sait, c'est établi, le diagnostic est fait, mais est-ce qu'il y a des signes avant, justement, l'apparition de ces varices?
Effectivement, oui, il y a des signes, je vais les classer, comme ça on les donne bien. Il y a les jambes lourdes, tout le monde le sait. Il y a des impatiences, des sensations désagréables comme ça. Donc, on veut faire des petits mouvements, on n'arrive pas à se rester stable. Il y a les dysesthésies, des sensations de brûlure. Voilà. Il y a des démangeaisons, comme je l'ai dit. Il y a des crampes qu'on peut avoir. Il y a de l'œdème.
On a les jambes gonflées.
Les jambes gonflées, surtout en fin de journée, quand on est resté longtemps debout. Et il y a ce qu'on appelle des télangectasies. C'est ce que vous avez décrit. Des réseaux de petits vaisseaux rouges dilatés, visibles, comme vous l'avez vu, sur la peau de la jambe, fins comme des cheveux. Et ils prennent parfois une forme étoilée. En fait, ces telangiectasies sont en fait le stade juste avant la varice.
Alors tout à l'heure, vous avez expliqué comment arrivaient ces varices, ce problème de valvules. Est-ce que vous avez des chiffres, justement, pour savoir combien, quelle proportion de personnes sont touchées au sein de la population? On va s'en tenir pour l'instant à l'épidémiologie en France, professeur Emmanuel Messas.
Alors, dans les pays industrialisés, donc en France, on a à peu près entre 11 et 24% de la population, avec, comme vous l'avez dit, une surreprésentation des femmes avec un ratio de 1 sur 3, voire 1 sur 4.
On peut l'expliquer?
Alors, on l'explique possiblement par le profil hormonal, par les grossesses, puisque la grossesse favorise la vasodilatation et donc la survenue de varices, et probablement aussi par une prédisposition génétique. Mais en tous les cas, effectivement, il y a une surreprésentation des femmes dans cette population.
Alors, quand on parle justement de l'épidémiologie dans les pays industrialisés, pourquoi cette distinction? C'est parce qu'on a moins de chiffres dans les pays du Sud ou les pays en développement, ou simplement parce qu'il y a vraiment des différences, y compris des différences génétiques?
Alors, possiblement, effectivement, ce qu'on appelle un fond génétique différent. Les chiffres qu'on a revus un peu dans la littérature, c'est plutôt 5% en Afrique et peu en Inde, 1%. Il y a probablement aussi le mode de vie qui fait que, paradoxalement, eh bien, on en a plus dans le monde industrialisé, comme on dit, qu'en Afrique ou en Inde. Ces modes-là qui font qu'on reste plus longtemps debout, qu'on est plus exposé aux facteurs de risque, fait qu'on a survenu de varices. Mais probablement, clairement, l'hérédité doit jouer un rôle particulier sur cette différence.
Malgré tout, tout à l'heure, vous disiez dans les facteurs favorisants, il y avait la chaleur.
J'y ai pensé.
On ne peut pas dire qu'au Sud,
absolument,
on ne soit pas exposé à la chaleur.
Mais peut-être qu'on est plus résistant en fait à la chaleur. Ce que vous dites, il y a probablement effectivement un fond génétique qui fait qu'on a moins tendance à faire des varices dans ces populations qui sont habituées à être exposées à la chaleur.
Alors, il y a une atteinte superficielle, on l'a dit, avec ces varices. Pourtant, une prise en charge médicale est parfois nécessaire pour éviter les complications. On va justement, professeur Emmanuel Messas, voir avec vous quelles sont les grandes complications. Pourquoi, justement, tout ça n'est pas simplement qu'une affaire de jambes disgracieuses?
Oui, c'est vraiment un point important que vous dites, parce que les gens parlent, bon, c'est inesthétique, c'est pas grave. Non, c'est vrai, ça sous-tend une maladie systémique, en fait, du réseau veineux superficiel qui n'est plus fonctionnel. Et il peut y avoir deux types de complications, les complications aiguës et les complications chroniques. Comme on l'a rappelé au début de l'émission, les complications aiguës, la thrombophlébite. Alors, c'est la fameuse phlébite. Quand on parle de phlébite, ça fait un peu peur. C'est une thrombose d'une veine. Et cette thrombose de veine est favorisée par la stase veineuse induite par la varice.
Alors, vous utilisez pas mal de mots compliqués sur ce système veineux. Stase, thrombose, si on définit simplement.
C'est un caillot, en fait, qui s'est formé.
Ça se bouche, tout voilà, simplement.
Exactement. Parce que comme la varice, c'est une dilatation de la veine, le sang a tendance à stagner, la valvule ne marche plus, donc il n'y a plus le retour veineux, le sang stagnant a tendance à coaguler et à former une thrombose, ce qu'on appelle une phlébite.
Et là, c'est très grave.
Là, c'est grave, très grave. Et le risque d'embolie pulmonaire, il est peu élevé, mais il faut la traiter. Il y a des études qui ont montré que certains médicaments sont efficaces sur cette thrombophlébite.
Alors justement, ce caillot sanguin, est-ce qu'il y a des mesures de prévention? Qu'est-ce qu'on fait au-delà de l'observation, de la prise en charge par un médecin, un généraliste ou un médecin spécialisé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement ces complications?
Alors, il y a effectivement ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, donc éviter l'exposition à la chaleur, le sauna, le hammam et autres, favoriser la marche, puisqu'on l'a compris, plus vous marchez, plus vous tapez, plus vous favorisez le retour sanguin, et plus il y a moins de stase, et donc moins de risque de caillots. Mettre des chaussettes de contention, voire classe 1, classe 2, qui permettent là encore de faire la contraction musculaire et favoriser le retour veineux.
Est-ce que, par exemple, dormir avec les pieds en surélévation, c'est quelque chose qu'on peut aussi préconiser?
Oui, tout à fait. C'est possible.
Alors, on va donner la parole tout de suite aux auditeurs de Priorité Santé. On se retrouve dans quelques instants avec vous, professeur Emmanuel Messas.
Priorité santé sur RFI.
Et c'est tout d'abord une auditrice, hein, c'est Michel qui est en ligne d'Épernay, dans l'est de la France. Bonjour Michel.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour.
Eh bien, bonjour professeur.
Bonjour.
Voilà, c'est une bonne heure, et je remercie RFI de vous permettre de poser mes questions.
Excusez-moi voilà. Madame, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que vous rapprochiez de votre téléphone, parce que là, la ligne est très très mauvaise, on a du mal à vous entendre. Michel, vous êtes toujours avec nous ? Non, Michel, nous avons perdu Michel. On va tout de suite réessayer de la rappeler. Entre-temps, on va prendre en ligne Constant, qui est à Koundoul, c'est au Tchad. Bonjour, Constant.
Bonjour.
Constant. Bonjour et bienvenue. On vous écoute, Constant.
Oui, concernant le problème des grosses veines autour des bras, chaque moment, pour moi, il arrive parfois où ces veines ou ces grosses veines apparaissent autour du bras. Et il arrive aussi des moments où cela disparaît et ça m'inquiète. Et je cherche à savoir s'il y aura des risques cardiovasculaires ou bien des éventuelles conséquences liées à cette apparition simultanée et spontanée des fois, tout comme ça.
Constant, j'ai une question. Elles restent combien de temps visibles, ces veines, sur vos bras ?
Des fois, environ 1h, 30 minutes, et puis je ne le vois plus à la surface.
Alors, professeur Emmanuel Messas, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans la définition des varices, il s'agit des membres inférieurs. Là, Constant parle de ses bras. Est-ce qu'on peut dire que ce dont il souffre, ou du moins ce dont il s'inquiète, ce sont des varices ?
Non, ça paraît pas être des varices, hein. On a l'impression, vous savez, comme vous l'avez dit, c'est un réseau veineux superficiel, donc il suffit de faire un peu de musculation ou un peu de vasodilatation et on voit ces veines apparaître au niveau du membre supérieur. Il existe, hein, des veines superficielles aussi au niveau du membre supérieur. Il y a le réseau veineux profond et superficiel, c'est les céphaliques et les basiliques.
Et on le voit notamment sur les personnes qui font de la musculation.
Absolument.
Avec tout ce réseau veineux très apparent. D'ailleurs, ça fait partie de l'esthétique de cette musculation. C'est pas des varices.
Non, c'est pas des varices.
Donc on peut vous rassurer sur ce point, Constant, hein. A priori, ce que vous nous décrivez, ce sont davantage simplement, on peut dire, des veines,
oui, des
hein,
veines
tout simplement.
Voilà, apparentes.
Des veines apparentes, voilà. Et non pas des varices, parce que les varices, dans la définition, c'est membres inférieurs, c'est bien ça ?
Pas nécessairement. On peut avoir d'autres localisations pelviennes, hein, par exemple en cas de grossesse, on peut avoir des varices au niveau du pelvis, scrotal, vaginal, et par exemple les hémorroïdes sont des varices.
C'est une dilatation veineuse. Alors, on va retrouver Michel. Cette fois-ci, elle est bien avec nous. On dit au revoir à Constant et on retrouve Michel qui est en ligne d'Épernay. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Ah, là, c'est parfait. Donc, on vous écoute, Michel.
Eh bien, je remercie RFI et bonjour, professeur.
Bonjour.
Et merci de pouvoir me permettre de vous poser ces questions.
On vous écoute.
Voilà. En fait, ce qui est arrivé à mon mari, et qui s'est fait piquer par un moustique, ce qui paraît bizarre par rapport à ce problème de varice. Mais en fait, la cicatrisation de cette piqûre ne s'est jamais faite. Nous avons consulté un généraliste qui lui a indiqué de se rapprocher d'un phlébologue. Celui-ci, en effet, a expliqué qu'il avait un ulcère lié à un problème de varice. Et en fait, il doit être opéré pour cette varice, qui l'ennuie. Et ce que j'aimerais savoir, professeur, c'est le temps qui va s'écouler entre le moment de l'intervention. Va-t-il être en invalidité pour conduire sa voiture, pour reprendre son activité professionnelle? Comment cela va-t-il se passer?
Alors, la réponse en deux temps. D'abord, pour expliquer ce qui s'est passé, une piqûre, une ulcération et donc le diagnostic de la présence de varices.
Alors oui, en fait, c'est à l'occasion de la piqûre qui a engendré l'ulcération ou l'ulcère. On s'est rendu compte, en faisant le bilan de cette ulcère, qu'il y avait une insuffisance veineuse superficielle, des varices qui font qu'il y a ce qu'on appelle la stase sanguine et on cicatrise moins bien jusqu'au point à faire des ulcères quand c'est une insuffisance veineuse chronique.
Qui nécessite donc un geste.
Voilà, donc le geste, il est étiologique, c'est la cause qui participe à la formation de l'ulcère, et il y a le traitement de l'ulcère lui-même, avec des pansements qui permettent la détertion, le bourgeonnement et la cicatrisation de l'ulcère. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect étiologique, la cause de l'ulcère, c'est la varice, donc on va la traiter pour éviter la complication de l'ulcère, et il y a le traitement local de l'ulcère, en tant que tel, pour le cicatriser. Tout ceci met du temps. Je n'ai pas vu l'importance de l'ulcère, donc je ne peux pas vous dire le temps, mais c'est des semaines, hein, parfois des mois. Et tout ceci, effectivement, nécessite et une intervention et un accompagnement médical. Alors la reprise du travail dépendra de la célérité de la cicatrisation.
Mais en tout cas, en général, il y a une petite immobilisation nécessaire,
oui,
après l'opération.
Après l'opération, tout à fait. C'est une semaine, hein, voilà. Mais après, même, il faut reprendre la marche, comme je l'ai expliqué, pour qu'il y ait retour veineux et en même temps, continuer les pansements, continuer la cicatrisation de l'ulcère.
Voilà Michel pour cette réponse. Opération, un petit temps de repos nécessaire. Et puis après, c'est le généraliste de toute façon qui décidera aussi.
Voilà, accompagné par le phlébologue.
Par le phlébologue. Merci beaucoup Michel pour votre appel d'Épernay dans l'Est de la France. On va prendre la direction du sud, hein, sud-ouest, avec Toulouse, où l'on retrouve Nicole. Bonjour Nicole.
Bonjour madame, bonjour professeur.
Bonjour.
On vous écoute Nicole.
Alors, moi, c'est plus un témoignage parce qu'en fait, j'avais mal depuis des années à la jambe gauche et puis j'avais une impression de lourdeur, une jambe qui gonflait de temps en temps et quelquefois une douleur plus pénible. Bon, j'y prêtais pas attention parce que ça avait toujours été comme ça. Puis j'avais pas de varices externes, donc quand je voyais des personnes qui avaient des grosses varices, je disais, c'est pas beau, faudrait... Je comprenais pas comment elles pouvaient rester comme ça. Et puis moi, j'avais rien. Alors, je portais des bas de contention pour me soulager, puis c'était tout, quoi. Et puis un jour, je me suis fait soigner des petites varices externes et on m'a passé un Doppler. Alors là, on m'a dit que j'avais des clapets d'une veine qui ne fonctionnait pas et que ça avait toujours été comme ça. Alors, la phlébologue m'a dit que je risquais une phlébite, une petite phlébite. En fait, je ne sais pas trop ce que c'était qu'une petite phlébite. Je n'ai pas osé poser de question.
Mais ça va être l'occasion de la poser maintenant, cette ouais, question. En tout cas, c'est que ces varices externes ont été le point d'alerte pour justement éviter des complications plus graves. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, professeur Emmanuel Messas. C'est pour ça qu'il faut bien les surveiller.
Absolument. Et c'est vrai que le bilan d'échographie, de Doppler, permet, comme je l'ai dit, de faire le point global, pas que sur la varice et sur le réseau veineux superficiel. Et sur le réseau veineux profond, parce qu'on des fois on trouve des thromboses veineuses profondes qui là sont graves puisqu'elles peuvent engendrer des embolies pulmonaires. Alors la phlébite superficielle, elle n'est pas grave, il faut la traiter, mais elle peut effectivement découvrir d'autres complications. Et donc quand on a une varice, il faut aller voir son angiologue, son phlébologue, faire un écho Doppler qui permettra d'abord de comprendre cette varice et de faire l'état des lieux complet et d'éviter la thrombose.
Nicole, vous avez été opérée depuis et tout se passe bien ?
Ah, tout se passe très bien, parce que bon, j'ai attendu quelques années parce que j'avais d'autres problèmes à régler. Et ce qui m'a fait réfléchir, c'est une personne qui a eu une phlébite. Et c'était grave. Donc là, j'ai dit, quand j'ai entendu le mot phlébite, j'ai repensé à ce que la phlébologue m'avait dit. Et j'ai décidé de me faire opérer. Et ça s'est très, très bien passé.
Bah, très bien. Bah, c'est une très bonne nouvelle pour vous. En tout cas, vous avez été alerté suffisamment à temps par votre médecin. Merci beaucoup, Nicole, de cet appel de Toulouse. Ces complications, elles peuvent être graves. Une question, tout à l'heure, on parlait les varices, membres supérieurs, voire la zone, on va dire, du périnée, la zone génitale. Est-ce que la coupe rose a un rapport avec les varices ?
Non.
Non, c'est autre chose, c'est dermatologique,
oui, c'est
autre chose.
Oui.
C'est pas un réseau veineux qui est en
ça
question.
Ça peut être un réseau veineux superficiel, mais c'est une autre maladie, c'est d'autres symptômes.
Alors quand on parle varices, on parlait de surélever les jambes, ces bras de contention, on parle souvent de drainage. Est-ce qu'il y a certains aliments qui sont recommandés justement pour avoir une meilleure circulation ?
On
entend
dit,
ça parfois dans des magazines, etc. Est-ce que c'est un petit peu abusif ?
C'est abusif. On peut dire bon, il faut avoir un régime alimentaire équilibré, mais dire que certains aliments vont prévenir ou guérir de la varice, c'est abusif.
Et la première mesure de prévention, c'est l'exercice physique, la marche.
La marche, voilà. Tout à fait. La marche, une demi-heure, une heure par jour, ça permet le retour des sports, le jogging, le vélo, et éviter les sports violents ou les sports où on tape fréquemment, hein, comme le basket, le tennis,
avec
et
des
autres. Voilà, avec des à-coups qui fait que ça peut être délétère pour les veines.
Alors, vous restez avec nous, professeur Emmanuel Messas. On va se retrouver dans quelques minutes, hein, dans 3 minutes précisément, juste après les informations. On va continuer à parler des varices. Le numéro de l'émission, 33 84 22 75 75. À tout à l'heure.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée aux varices. Toujours avec nous en studio, le professeur Emmanuel Messas, responsable de l'unité fonctionnelle des maladies vasculaires à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. On a évoqué en première partie d'émission la prévention, les facteurs de risque, quelques complications de l'insuffisance veineuse chronique. On va aborder les traitements maintenant, avec d'abord une première question. À quel moment un patient doit-il faire ce que l'on appelle un bilan phlébologique, professeur Emmanuel Messas?
Alors effectivement, il y a un bilan phlébologique à faire lorsqu'on a des symptômes, comme on l'a dit la patiente. Hein, il ne faut pas attendre que la varice arrive, comme je l'ai expliqué, comme ça a été vu. On a des symptômes précurseurs, les jambes lourdes, l'œdème, etc., etc. À ce moment-là, il est intéressant d'en parler à son médecin généraliste, qui peut vous orienter vers un angiologue et un phlébologue, et qui va faire le bilan. Le bilan est clinique, il va l'examiner, et le bilan échographique, une simple échodoppler, qui va permettre d'évaluer, comme on l'a dit, et les veines superficielles et les veines profondes. Et au regard de cette cartographie, de décider, est-ce qu'il y a simplement des règles hygiéno-diététiques, un régime médicamenteux, quelque chose, des traitements conservateurs qui vont garder le réseau veineux superficiel, ou des traitements entre guillemets destructeurs qui vont quelque part faire disparaître ce réseau veineux superficiel.
Alors vous employez le terme de cartographie, hein, oui. Cartographie du réseau veineux, est-ce que c'est quelque chose qui est matérialisé? Est-ce qu'on a, je ne sais pas, une planche anatomique avec tous ces petits vaisseaux? Ça ressemble à quoi?
Alors ça ressemble, en fait, l'échographiste fait échographe quelque part les veines, et après fait un schéma, et il va faire le schéma et des veines, et des varices, et des collatérales, et du réseau entre le réseau veineux profond et superficiel, et il va marquer les zones qui sont donc variqueuses et qui seront les cibles d'un traitement éventuel.
Alors, on va parler justement de ces traitements. On va d'abord parler du plus simple d'entre eux, hein, dispositif médical. Les bas de contention, ça existe depuis très longtemps. À quoi servent-ils précisément, professeur Emmanuel Messas?
Alors, comme on l'a dit, ça sert à aider les veines au retour veineux, en fait, pour que le sang retourne vers le cœur. Et donc, ça fait une contention, une compression, et ça favorise la chasse musculo-veineuse, et donc le retour veineux. Et ça va aider un peu les valvules qui sont déficientes à faire remonter le sang du pied vers le cœur. C'est l'essentiel, hein. Comme ça, on se sent mieux. Il y a moins de sensations de jambes douloureuses, moins d'œdème, moins de fatigabilité, et il y a une amélioration des symptômes.
Et en France, c'est même pris en charge par la sécurité
Absolument,
sociale.
Absolument, tout à fait. Alors, on peut prendre des chaussettes, des bas, des collants. Le tout, c'est d'être le plus à l'aise possible, tant pour la mettre que pour les garder, car il faut les garder le plus longtemps possible pour qu'elles se soient efficaces.
Alors, il existe différentes méthodes, hein, pour faire disparaître les varices apparentes. On va d'abord parler de la sclérothérapie. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, la sclérothérapie, c'est un traitement local, hein, qui est ce qu'on appelle la sclérose. Et l'idée, c'est d'aller faire rétracter la veine, soit par la sclérothérapie à la mousse ou des liquides. Enfin, c'est des produits, on ne va pas trop rentrer.
On injecte dans la veine.
Voilà, on injecte dans la zone variqueuse, et ça va permettre, avec une petite anesthésie locale si nécessaire, c'est en ambulatoire, hein, tout cela, au moment, on fait d'abord la cartographie, on évalue, comme je l'ai dit, les choses. Si on dit qu'il y a une indication à la sclérothérapie, on la propose au patient. Il y a un délai de réflexion de quelques jours, on va faire ça automatiquement. Et quand ce délai est obtenu et que le patient est d'accord, on fait revenir le patient dans une salle de décodoplaire classique, et on va faire cette sclérothérapie, injection locale à la mousse ou au liquide, mais à la mousse ça paraît plus efficace, qui va permettre de rétracter la veine. Donc elle est plus dilatée, elle est rétractée, voire collabée, et donc faire disparaître la varice.
Qu'est-ce qui détermine, parce qu'il y a plusieurs méthodes, qu'est-ce qui détermine le recours à telle ou telle méthode? Il y a aussi du laser, radiofréquence, j'ai vu, hein, c'est très complet,
absolument.
Même de la vapeur d'eau. Pourquoi on décide d'utiliser telle ou telle méthode?
Alors,
professeur,
ça dépend de l'opérateur, bien sûr, et de son habitude, mais aussi de l'importance de la varice. Si celle-ci est très importante, par exemple, ce qu'on appelle les incontinences osteotronculaires, c'est-à-dire que ça atteint toute la longueur de la cuisse, hein, là, la sclérothérapie, ça ne va plus être possible, et il faut proposer en fonction ou la radiofréquence, on va en parler comment ça se passe, ou carrément la chirurgie, ce qu'on appelle le stripping des varices, c'est-à-dire qu'on va carrément enlever cette veine saphène et donc il n'y aura plus de varices, mais avec le bien entendu des risques de récidive. Donc voilà, c'est en fonction de l'étendue, de l'anatomie de ces varices, qu'on va choisir plutôt la sclérothérapie, plutôt la radiofréquence.
Alors, radiofréquence, c'est quoi? C'est avec de la chaleur? C'est quoi précisément?
Alors, c'est effectivement un cathéter qu'on monte, alors clairement, juste en dessous du genou, qu'on va donc insérer tout le long de la veine, en l'occurrence la veine saphène, plus souvent la veine saphène interne. Et effectivement, on envoie une sorte de courant qui va, par chaleur, favoriser la rétraction de la veine, Avant cela, on isole la veine, hein, pour être certain qu'on ne va pas aller atteindre d'autres localisations. Donc, on fait des petites injections autour de la veine pour l'isoler. Et en fonction, on envoie le courant de radiofréquence. Ça va donc faire rétracter cette veine. Et puis après, le cathéter est enlevé.
Avec aussi possiblement un usage du laser, c'est fréquent?
Alors, le laser existe, ça, c'est un peu le même principe, le cathéter, on envoie le laser, mais il n'est pas pour l'instant remboursé en France, donc il faut payer de sa poche. Il semblerait que ça soit un peu plus efficace, ça demande une longueur d'intervention moins importante, mais bon, pour l'instant, c'est pas remboursé, et donc c'est pas le gold standard utilisé actuellement.
Alors, tout à l'heure, il y avait cette question de Michel, hein, justement, sur le temps de convalescence après une intervention. Professeur Emmanuel Messas, est-ce que ça dépend, justement, de la nature de l'intervention?
Absolument. Lorsqu'on fait une sclérothérapie, ça ne nécessite pas d'anesthésie importante, on peut tout de suite ressortir. Et habituellement, on dit, bon, alors, soit il peut retourner travailler, soit vraiment, si c'est douloureux, parce qu'il y a une phase douloureuse après, 3-4 jours d'arrêt de travail.
On imagine ces différences, vous appeliez ce terme anglais, le stripping, le retrait de la veine, là ça doit être plus sérieux.
Ah oui, là c'est plus sérieux, c'est carrément chirurgical avec une anesthésie qui peut être générale ou locale. Et là, effectivement, là c'est plus compliqué, c'est du post-opératoire. Par contre, la radiofréquence, là encore, comme je vous l'ai expliqué, ça peut se faire en ambulatoire et on demande plutôt 5 à 7 jours d'arrêt.
Alors vous restez avec nous, professeur Emmanuel Messas, on va tout de suite partir pour le Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Au Cameroun, on retrouve le docteur Marcus Foku. Bonjour.
Bonjour madame et bonjour docteur de RFI.
Vous êtes chirurgien vasculaire phlébologue à l'hôpital général de Yaoundé. Docteur Foku, est-ce que les varices constituent une pathologie que vous traitez fréquemment?
Évidemment, depuis que nous sommes dans le stade de Yaoundé, nous recevons beaucoup de malades avec des varices, c'est les autres formes derrière des maladies veineuses chroniques. Et je voudrais dire peut-être plus précis que nous recevons à peu près 4 à 5 nouveaux malades par semaine à l'hôpital général de Yaoundé. Ça fait à peu près 150 malades par an des maladies veineuses dont les varices ne sont généralement qu'une des formes de présentation, même si c'est la forme la plus connue et la plus anciennement décrite.
On parlait tout à l'heure avec le professeur Emmanuel Messas des populations touchées. Est-ce que les patients que vous prenez en charge à Yaoundé, docteur Marcus Foku, ont un profil particulier, plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt qui viennent de la ville de Yaoundé ou même de la campagne?
Merci. En termes de population, la différence que nous avons observée ici avec ce qui est connu généralement dans les pays occidentaux, c'est que nos patients sont beaucoup plus jeunes que ceux qui sont décrits là-bas. Et la moyenne d'âge, par exemple, ici, c'est dans les 45 ans, des malades qui viennent, c'est des maladies veineuses. Ils viennent de tous horizons, aussi bien de la campagne que de la ville. Étant situés en zone urbaine, nous recevons évidemment plus de malades qui viennent de la ville que des régions reculées. Ça fait que l'une des raisons, c'est que les distances sont très importantes pour les malades et parfois les coûts de prise en charge décourageraient certains qui pourraient venir demander à être pris en charge en ville. Mais déjà ici en ville, on a beaucoup de malades et comme la discipline ou la spécialité n'est pas encore très connue, nous sommes convaincus que nous ne voyons là que la petite partie des malades qui existent dans la population.
Oui, les gens ne viennent pas forcément consulter. Mais est-ce que vous avez des explications, docteur Marcus Foku, justement sur les populations touchées? Pourquoi en Afrique, ces personnes sont plus jeunes que celles qui viennent consulter davantage en Europe? Comment ça se fait?
Dans une étude que nous venons de terminer avec le concours d'ailleurs de l'Union internationale de phlébologie, nous avons constaté que la différence serait qu'en Europe, beaucoup de malades qui ont des maladies veineuses chroniques sont souvent des patients qui ont eu auparavant des thromboses ou d'autres maladies qui pourraient provoquer la maladie veineuse. Alors que chez nous, la plupart des malades ont ce qu'on appelle les varices génétiques, c'est-à-dire que davantage en rapport avec la génétique dès le départ qu'une pathologie acquise. Je pense que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on retrouve à un âge plus jeune. Bon, on peut aussi que dans l'ensemble, la population en Afrique est plus jeune qu'ailleurs. Donc, on pourrait.
C'est un facteur, oui, c'est un facteur important. Donc davantage de facteurs héréditaires. Justement, ces personnes que vous voyez, qui viennent en consultation, comment elles perçoivent, et même au-delà, au Cameroun, comment est-ce qu'on perçoit ces varices, docteur Foku?
C'est encore ça, c'est une question très large, mais je voudrais vous juste vous dire que d'une région à l'autre du Cameroun, la perception reste très variable, mais dans l'ensemble, ici chez nous, aucune maladie ne vient d'elle-même. La plupart des porteurs de varices, et surtout de la complication la plus habituelle qu'elle nous sert, sont considérés comme des problèmes secondaires à des pratiques mystiques ou bien religieuses, ou ainsi de suite. Au point où beaucoup de malades ne se rendent même pas à l'hôpital parce qu'ils sont convaincus que ce sont des maladies provoquées par des tiers dans les pratiques religieuses ou mystiques et qui ne pourraient pas être pris en charge à l'hôpital. Cette perception-là gangrène véritablement la prise en charge des varices et des ulcères et probablement même beaucoup de pathologies chez nous.
Alors les gens ne prennent pas suffisamment ça au sérieux. Justement, quelle prise en charge est-ce que vous proposez?
Merci. Je ne vais pas revenir sur l'élément de prise en charge que le professeur a décrit tout à l'heure, mais évidemment, pour tous les malades, nous faisons ce qu'on appelle les mesures générales, c'est-à-dire la réduction des comportements qui aggraveraient les varices, comme les vêtements, le sport, l'activité physique, l'alimentation et tout ça. Pour peut-être tous les malades, nous utilisons aussi souvent des médicaments venus toniques. Pour peut-être tous les malades, on utilise des barres de compression. Mais pour les autres traitements, notamment entre la chirurgie, la chirurgie, les méthodes d'environnement comme le laser, la radiofréquence, pour des raisons de coût et d'efficacité, nous faisons de la chirurgie pour certains malades et de la chirurgie pour d'autres. Je dois juste dire que ici, nous recevons des patients avec des varices à des tailles incroyablement grosses, si bien que la chirurgie est très souvent le structure dont on parlait tout à l'heure, très souvent indiquée pour beaucoup d'entre eux. Mais depuis environ 4 ans, nous avons introduit la chirurgie de routine dans notre pratique, notamment pour les petites varices ou bien les récidiver après traitement sur des verres visuels. Et les verres réticulaires, les plus petites veines, dont parfois le problème est surtout esthétique. Donc nous faisons en résumé les mesures générales et les médicaments et sur les plans de traitement invasif, la chirurgie et la chirurgie. La radiofréquence, le laser sont, à notre avis, encore suffisamment chers pour ne pas être dans l'avenir de notre pratique quotidienne. C'est dans l'avenir.
On a bien compris, docteur Marcus Foucault. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chirurgien vasculaire, phlébologue à l'hôpital général de Yaoundé au Cameroun. Le message, c'est d'essayer d'aller consulter avant justement que la varice ne soit trop importante, nécessitant une prise en charge lourde. Professeur Emmanuel Messas, on l'a évoqué tout à l'heure très rapidement. J'aurais aimé reposer cette question tout de même. La grossesse, c'est un moment chez les femmes particulier avec parfois l'apparition de varices, comment est-ce qu'on l'explique?
Alors, la grossesse fait qu'il y a un hyperdébit et une vasodilatation, c'est une tendance à la dilatation des veines. Et donc, si on a des prédispositions, effectivement, eh bien, ça va favoriser la varice, puisque l'hyperdébit plus la dilatation fait que la varice va arriver plus facilement. En plus, l'utérus, quand il va prendre plus de place, il peut comprimer un peu le retour veineux au niveau de l'abdomen. Et qui dit retour veineux moins bon au niveau du pelvis et de l'abdomen, eh bien, effectivement, une stase au niveau du membre inférieur et une varice possible.
Et il y a des localisations particulières, justement, sur ces varices liées à la grossesse?
C'est plutôt les varices pelviennes, au niveau vulvaire et autres, mais ça peut être aussi au niveau de la cuisse. Et effectivement, en plus de cela, les changements hormonaux favorisent aussi la survenue de varices. Donc voilà, la grossesse, c'est un moment où on peut, entre guillemets, décompenser sa maladie veineuse chronique qui était insidieuse et qui devient symptomatique au moment de la grossesse.
Et qu'est-ce qu'on fait alors, professeur Emmanuel Messas? On attend que ça passe? On attend l'accouchement pour voir si ça réduit, si ça disparaît, ou on fait une intervention au cours de cette grossesse?
Alors, vaut mieux éviter, bien sûr, les interventions au cours de la grossesse. On met les chaussettes de contention, on évite, on fait la mesure hygiénétique dont on a parlé. Et secondairement, on refera le point. Il faut éviter, bien sûr, toute intervention pendant la grossesse.
Tout à l'heure, on parlait des facteurs favorisant la grossesse. Forcément, il y a un gain de poids. Est-ce que le surpoids, c'est aussi un facteur qui favorise la survenue de varices?
Oui, le surpoids aussi favorise, parce que là encore, il diminue le retour veineux et il rend le retour veineux plus difficile. Et donc là encore, la même physiopathologie, le même mécanisme, dilatation et survenue de varices.
On va prendre la direction du Mali tout de suite. On a un autre auditeur de Priorité Santé en ligne. Cet auditeur, c'est Edouard qui nous appelle de Mopti. Bonjour Edouard. Edouard, avec nous, on vous écoute, bonjour. Ah, hélas, Edouard n'est pas avec nous. On va essayer une nouvelle fois. Edouard, est-ce que vous êtes là? Non, le silence.
Oui, madame.
Ah, vous êtes là, c'est merveilleux. On vous écoute, Edouard.
en fait, je voulais savoir, parce que j'ai été opéré des varices depuis 2003, par les tritéridons de fer par les touches. Donc, depuis cette date, j'ai toujours le pied qui me fait mal. Je suis obligé la nuit de se relever pour que je sois à l'aise. Et je suis hypertendu connu depuis 2008. Je prends une antidiurétique aspégique. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments que vous me conseillez? C'est la question. Merci, madame.
Vous avez été opéré, on vous a retiré la varice, tout simplement?
Oui, la saphène. Voilà.
Alors, vous n'avez plus d'autres varices depuis l'apparition de cette veine?
J'ai fait les Doppler il y a 2 ans de cela, j'avais plus de varices, mais c'est toujours le pied là qui me fait mal en fin de journée, puis voilà, et puis en cas de voyage.
Professeur Emmanuel Messas-Edouard qui se plaint de douleurs après, longtemps après une opération, près de 15 ans plus tard, c'est quelque chose qui peut arriver?
Ça peut arriver, alors l'imputabilité de l'intervention elle n'est pas claire. Par contre, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie chronique, évolutive, récidivante, et donc ça fait 2 ans qu'il n'a pas fait le Doppler, peut-être qu'il faudrait refaire un Doppler veineux et artériel, pour voir si ce patient avec hypertension et autres facteurs de risque, s'il n'y a pas des lésions mixtes, et les veines et les artères, et revoir son angiologue pour refaire le point par rapport à ces douleurs qui arrivent, ces chaleurs qui peuvent être multiples, hein, de multiples causes, mais ça nécessite de refaire le bilan veineux, parce que c'est pas parce qu'on a fait, ça c'est important à le dire, le stripping que la maladie est guérie. On a guéri le symptôme, il peut revenir, la maladie peut revenir par des néoformations de vaisseaux, et ça nécessite une surveillance, comme on l'a dit, chronique, à long terme.
Ça veut dire que ça peut apparaître aussi, ça peut revenir, mais de façon invisible.
Absolument, de façon insidieuse, et donc d'où la nécessité d'un contrôle systématique, d'abord par son médecin généraliste, et si il pense qu'il y a une récidive, bah de le transférer à l'angiologue.
Tout à l'heure, Edouard citait quelques médicaments qu'il prenait, ça nécessite un suivi, mais pas une prise en charge médicamenteuse, forcément.
Pas forcément, bien sûr. Là, à ce moment-là, c'est l'angiologue avec le médecin généraliste qui décide si un traitement médicamenteux vénotonique peut être d'un intérêt. Surtout les vénotoniques, c'est au tout début de la maladie que ça peut avoir un intérêt. Mais toutes les études ont démontré que ces médicaments n'avaient pas d'efficacité sur le long terme et sur l'histoire naturelle de la maladie.
Donc Edouard, ce conseil du professeur Emmanuel Messas, c'est d'aller consulter pour refaire un nouveau bilan, pour voir si tout va bien, si justement ces douleurs sont une suite d'opérations ou si c'est le signe d'autre chose. Important donc de vérifier. Merci beaucoup, Edouard, de nous avoir appelé du Mali. En préparant cette émission, j'ai lu que certains utilisaient des sangsues pour traiter les varices. J'ai vu ça notamment en Algérie, un lac où les gens qui ont des problèmes veineux aux jambes vont tremper les jambes. Vous avez déjà entendu parler de ça, professeur Emmanuel Messas?
On a entendu parler des vertus des sangsues au niveau de thrombose, hein, de traiter cela, mais pour les varices, franchement, je n'irai pas en première intention avec les sangsues. Restons simples. Hein,
On va laisser les bêtes en dehors de tout ça.
Il y a effectivement des traitements avec cela, mais restons simples. Mesures hygiéno-diététiques, médicamenteux,
surveillance. Je veux dire que ça ne fait pas très envie, hein, même si, franchement, là, je voulais juste savoir si c'était quelque chose qui existait ou si c'était juste une sorte de fantasme. J'ai une question importante, là. C'est sur les corps professionnels touchés. Parce qu'on parle de cette station debout, ce piétinement qui favorise la survenue de varices. Il y a des métiers où on n'y coupe pas, hein. On est obligé de rester debout. Par exemple, un certain nombre de métiers dans le commerce, dans l'artisanat, les coiffeuses, les coiffeurs, les personnes qui se tiennent derrière les caisses, les comptoirs, les gens au marché, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller concrètement?
Alors effectivement, ça peut être très invalidant dans ce type de profession, parfois même une réorientation professionnelle dans les cas ultimes est nécessaire, mais sinon, comme on l'a dit, eh bien, c'est d'abord les mesures hygiéno-diététiques, les chaussettes de contention toute la journée, essayer un peu de s'asseoir et de surélever les jambes quand on le peut, bien s'hydrater et bien entendu traiter les varices, parce qu'en traitant les varices, on améliore les symptômes. Donc voilà, essayer d'adapter son poste professionnel, en accord bien sûr avec l'entreprise, pour diminuer le temps d'orthostatisme, de rester debout, pour éviter effectivement, parce qu'en fin de journée, les gens sont épuisés, ont des œdèmes, sont fatigués, et ça nécessite après parfois d'une réorientation professionnelle.
Mais c'est ce que voient justement les médecins en consultation, les phlébologues, tous ceux qui s'occupent de ce réseau veineux, professeur Emmanuel Messas, ils voient qu'il y a certaines professions qui consultent davantage
absolument
que d'autres.
Les pharmaciens, hein, qui restent très longtemps debout, les coiffeurs, absolument, il y a une prédisposition professionnelle ou des activités professionnelles qui favorisent le développement de ces varices et voire leurs complications.
Avec des conseils peut-être aussi particuliers, tout à l'heure, Edouard l'a dit rapidement, à ceux qui voyagent en avion, c'est quoi le problème particulier que pose l'avion sur cette insuffisance veineuse ?
Alors, en général, le voyage en avion, alors c'est des voyages en avion longs, de longue durée. Hein. Les longs courriers, on parle de voyages de plus de 6 heures, voire de plus de 8 heures. Hein. Ce n'est pas les petits voyages. Eh bien, on reste assis. On ne favorise pas le retour veineux. On est comprimé. On est des fois même serré. Et tout ceci peut favoriser effectivement, alors pas la survenue de varices, mais la survenue de thrombose, puisque le sang va stagner, vous n'allez pas bouger, et ça peut favoriser effectivement chez des patients qui ont une insuffisance veineuse superficielle ou profonde, la fameuse phlébite. Et pour éviter cela, donc ce qu'on demande, il y a des mesures simples, hein. C'est d'abord bien entendu les chaussettes de contention, si possible avoir les jambes surélevées, donc demander des sièges particuliers où il n'y a personne devant, mettre des pantalons larges, pas comprimé, marcher 5 minutes toutes les heures, donc il ne faut pas prendre le somnifère et dormir tout le long du voyage, et bien s'hydrater. Et on a démontré que simplement ces mesures-là permettent d'éviter la survenue de phlébite. Dans des cas extrêmes, où les patients ont déjà eu une phlébite, où ils sont à risque important de récidive, on donne des fois un comprimé, un anticoagulant ou une injection, qui est là à dose préventive, qui va prévenir la survenue de cette phlébite lors du voyage.
Et donc là, pour le personnel volant, on pense aux stewards, aux hôtesses de l'air, il peut y avoir carrément un arrêt de travail si justement il y a une incompatibilité physiologique.
Absolument, c'est le cas extrême, mais la plupart du temps, on arrive. Alors parfois, j'ai eu une patiente, effectivement, eh bien, elle ne fait plus les longs courriers que les moyens longs courriers, comme ça, elle évite ce problème-là.
Merci beaucoup, hein. C'est varices synesthétiques, pas forcément douloureuses. On l'a compris hein, tout au cours de cette émission, en tout cas à surveiller de près. Merci beaucoup à vous, professeur Emmanuel Messas, de nous avoir accompagnés et donné votre éclairage sur ces varices. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité fonctionnelle des maladies vasculaires à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Et c'est le moment de retrouver le docteur Jean-Marc Sen. Docteur Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport à Paris, médecin de l'équipe de France de judo. Alors vous nous conseillez régulièrement de faire du sport ou de l'activité physique après des séances pour bien récupérer hein, quand on a fait du sport. Qu'est-ce que l'on fait après ? C'est quoi précisément ? La récupération.
Bon, en fait, la récupération, Caroline, c'est le fait de restructurer que l'ensemble des systèmes de l'organisme se restructure. Alors, effectivement, il s'agit des articulations, des muscles, des tendons, hein, arriver à ce que les micro-dommages finalement cicatrisent, mais c'est aussi sur le plan métabolique, hein, le fait d'éliminer, on va dire, les déchets et puis de refaire finalement les réserves de l'organisme.
Alors, on dit souvent que l'eau, c'est la seule boisson indispensable et utile au sportif, il faut justement boire quelle quantité de boisson ?
Alors, la quantité de boisson peut être un petit peu variable en fonction des individus, mais il y a un moyen relativement simple, quand on fait des exercices qui sont standardisés, de pouvoir le savoir. C'est par exemple de se peser avant et après l'effort. Alors, il faut se peser des vêtus, parce que évidemment, la sueur est contenue dans les vêtements, et à ce moment-là, c'est de l'eau qui est bien évidemment perdue. Alors, il y a une formule qui est intéressante, que l'on peut faire facilement chez soi et qui coûte pas cher, c'est de prendre la moitié de jus de fruits, la moitié d'eau gazeuse, et puis ensuite de mettre un tout petit peu de sel, une pincée de sel. On dit 0,5 g, hein, c'est une toute petite pincée de sel à l'intérieur. Et là, il y a absolument tout dans cette boisson. Hein. Vous avez bien sûr de l'eau, des glucides, des sels minéraux, des oligo-éléments, même un petit peu de bicarbonate, donc vraiment pour les lactates, hein, les fameux lactates. Donc tout ça, c'est absolument parfait. Et ça permet évidemment de recharger le stock en eau et le stock également en glucides.
Et puis, justement, on l'a compris, bien s'hydrater, autre besoin, c'est le sommeil. Il faut bien dormir aussi après le sport.
Ah, c'est absolument essentiel. Hein. La qualité et surtout la régularité du sommeil est absolument essentielle. Parce que on sait que lorsque l'on s'endort, une heure et demie à deux heures après, on va sécréter, par exemple, une hormone essentielle, qui est l'hormone de croissance. Vous savez, c'est l'hormone de la récupération, c'est l'hormone de la cicatrisation. cicatrisation, par exemple, musculaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être tout à fait essentiel. Alors pour bien dormir, eh ben, il faut être dans une ambiance qui soit pas trop chaude. Il faut pas hésiter à prendre une douche tiède avant de se coucher et puis se relaxer pour pouvoir avoir un sommeil tout à fait adéquat.
Alors, boire, dormir, justement, vous avez utilisé le terme se relaxer. Pourquoi cette relaxation est-elle si importante, docteur Jean-Marc Sen?
Eh ben, c'est le fait de revenir finalement à un état de relâchement nerveux. Hein. Ça peut troubler évidemment le sommeil. Alors, il ne faut pas hésiter à prendre 5-10 minutes après justement le sport. Pourquoi pas pour s'étirer, plaisanter un petit peu avec ses partenaires, bien respirer, utiliser la respiration, la ventilation, le souffle qui est absolument essentiel pour pouvoir récupérer et avoir ce relâchement physique. On peut aussi, par des méthodes simples, utiliser les méthodes de ballottement. On met les jambes en équerre comme ça contre un mur et puis on ballotte les muscles comme ça. Ça fait un retour veineux et un relâchement musculaire qui sont tout à fait intéressants. Et puis, les assouplissements, les étirements sont aussi intéressants parce qu'ils permettent de diminuer les phénomènes douloureux le lendemain de la pratique sportive. Voilà. Avec tous ces conseils, normalement, on devrait parfaitement récupérer de sa séance de sport.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport à Paris, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique votre émission. Aujourd'hui, Sigrid Azeroual, Marjorie Bertin, Didier Bleu et Victor. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons sexualité avec le docteur Catherine Solano, sexologue. Vos questions au 33 1 84 22 75 75 et sur notre page Facebook. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.